Il est 23h.
RCI, 23h minuit, l'heure du crime. RTL, Jean-Alphonse Richard.
Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Là où ont dormi Georges Girard, le papa, la tantine et la bonne, y a trois cadavres. Du sang partout, désordre absolu. Et puis, il y a une grosse serpe. C'est l'arme du crime.
Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir dans l'heure du crime.
Il reste à ce jour celui qui a inspiré l'un des scénarios les plus haletants du cinéma. C'est lui, Georges Arnaud, qui avait écrit l'histoire du salaire de la peur, dans lequel se font face Yves Montand et Charles Vanel au volant d'un camion chargé de nitroglycérine, lâcheté, mensonge et fièvre de l'argent. Quelques années auparavant, le même Georges Arnaud avait-il imaginé le scénario bien réel, celui-là, d'un triple crime dans lequel il occuperait le premier rôle, le massacre du château d'Escouart. C'était à l'automne 1941 et celui qui s'appelait encore Henri Girard, 23 ans, s'était retrouvé accusé d'avoir tué en une nuit son père, sa tante et la bonne de la famille. L'argent déjà, l'argent d'un héritage aurait été le mobile de ses exécutions. C'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, histoire qui va longtemps rester taboue et sur laquelle l'intéressé devenu célèbre sous le nom de Georges Arnaud se gardera bien de revenir. Est-ce lui qui a tenu lors de cette nuit d'effroi la serpe couverte de sang? Notre invité Philippe Jaénada, qui a longtemps enquêté sur cette affaire, va nous aider à éclaircir ce mystère.
L'heure du crime.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire du château d'Escouart, un triple meurtre à l'automne 1941 dans lequel va se retrouver impliqué le fils de la famille qui sera un jour un célèbre romancier. Samedi 25 octobre 1941, aux alentours de 8h du matin, Jeannette Valade, petite paysanne de 16 ans, emprunte le sentier qui mène à une austère et monumentale bâtisse adossée à un parc. Dans le bourg d'Escouart, à 12 km de Périgueux, on appelle tout simplement cette propriété le château, domaine qui appartient à une riche famille parisienne, les Girard. Jeannette emmène deux poulets vivants à Amélie Girard, du ravitaillement en pleine guerre. Cette vieille fille, la quarantaine, cette vieille fille doit reprendre le jour même le train pour Paris. Madame Amélie séjourne depuis quelques jours au château avec son frère, Georges Girard, haut fonctionnaire du gouvernement de Vichy, et le fils de celui-ci, Henri, 23 ans. Les fenêtres et les portes de la grande maison sont closes. Seule la cuisine est ouverte. La petite paysanne entre, mais ne voit pas âme qui vive. La cuisinière n'est pas allumée, la bonne est absente. Elle appelle, mais personne ne répond. Elle traverse la salle à manger, plongée dans une semi-pénombre, puis se dirige vers le petit salon qui sert de chambre à Madame Amélie. Le désordre est ici indescriptible. Les tiroirs d'une commode ont été fouillés. Une armoire est ouverte, les draps et les couvertures roulées en boule, un matelas déplacé. Jeannette aperçoit deux jambes sur le sol, à droite du lit. Elle pense tout d'abord à une statue jetée par terre. Mais c'est un corps, gisant à plat ventre. Elle ne comprend pas, pressant le pire, repart chez elle pour donner l'alerte. Jeannette, aussitôt enfuie, un cri ne tarde pas à déchirer la quiétude du parc du château d'Escouart. Les Tolu, Romain et Victoria Tolu, le couple de gardiens qui habitent là, une petite maison, entendent cet appel au secours. C'est Henri Girard, le fils de la famille, qui crie « ils sont tous morts » répète-t-il. Les gardiens, puis bientôt le maire d'Escouart, les premiers gendarmes et quelques curieux, découvrent un massacre. Près de la cuisine, dans une chambre, il y a le corps de Georges Girard, en partie défiguré par une avalanche de coups donnés avec un objet tranchant. Il s'est défendu. Un autre cadavre se trouve non loin de lui, celui de la bonne Louise Soudex, qui loge au château, tuée d'un seul coup à la tête. Avec le même objet, elle est morte debout, alors qu'elle voulait sans doute venir au secours du propriétaire. Amélie Girard, Madame Amélie, est la victime qui a reçu le plus de coups. Son meurtrier s'est acharné, 18 perforations et estafilades dans le dos. 6 coups ont été donnés alors qu'elle était déjà morte. Elle aussi s'est défendue. Ses doigts, qui portent encore leur bague, ont été tranchés. L'arme du crime est vite retrouvée dans la cuisine. C'est une serpe maculé de sang. Le gardien la reconnaît. Henri, le fils de la famille, lui avait emprunté la veille. Henri Girard répète à qui veut l'entendre qu'un cambrioleur a tué tout le monde. Il en veut pour preuve cette maison sans dessus-dessous. La tante Amélie était arrivée depuis une dizaine de jours. Henri l'avait rejointe. Il avait ensuite insisté auprès de son père, haut fonctionnaire, historien, archiviste au ministère des Affaires étrangères de Vichy, pour qu'il vienne au château. Celui-ci avait finalement accepté. La veille du drame, la famille, servie par Louise, a dîné à 19h30, une soupe de haricots. Henri dit que son père s'est couché vers 22h, sa tante une heure plus tard. Lui a retrouvé sa chambre dans l'aile opposée du château, l'aile nord-est. Il a lu jusqu'à minuit un roman de Paul Bourget intitulé « Le sens de la mort ». Il n'a rien entendu. Henri ne semble pas particulièrement sonné par la tragédie. Juste après la découverte des corps, on l'a surpris en train de jouer du piano après avoir bu des rasades de gnôl. Quand le maire s'est étonné de cette attitude, il a répondu « C'est tristesse de Chopin ». Les regards se portent d'emblée sur ce jeune homme excentrique, un bon à rien pour beaucoup, dont on dit qu'il détestait sa tante. Et voilà donc pour la scène de ce triple crime dans ce château, un brin austère, il faut bien le dire, un brin lugubre, dans cette Dordogne qui vit à l'heure de la guerre. On est déjà dans l'amorce d'un scénario prometteur aux abords de ce tout petit village d'Escouart. Et on va voir évidemment dans les chapitres suivants comment cette enquête va progresser. Bonjour Philippe Jaénada.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, auteur du livre La Serpe aux éditions Julliard, prix Femina 2017. C'est un gros bouquin et vous avez longtemps enquêté sur cette affaire. Il y a tout dans ce bouquin, on va en parler évidemment avec vous. Première question, Philippe Jaénada. Quelques mots sur cette famille Girard. Ce sont dans cette Dordogne des Parisiens, c'est ça, une riche famille parisienne.
Oui, a priori, c'est le schéma classique des châtelains de Paris qui viennent déranger et surplomber les braves habitants qui sont leurs métayers d'ailleurs. Les habitants autour du château sont les métayers de ces personnes. C'est une vieille famille bourgeoise, de la grande bourgeoisie parisienne, assez riche, relativement riche, qui possède des immeubles, des terres, des actions en bourse, etc. En fait, il s'avère que c'est une famille un peu plus étrange et bizarre que qu'on pourrait s'y attendre, avec un père, Georges Girard, qui n'est pas du tout l'image du grand bourgeois parisien, qui est plutôt une sorte de d'archiviste, bibliothécaire, un peu poète, un peu rebelle. Une tante, donc sa sœur Amélie, Madame Amélie, comme vous disiez, qui est la vieille fille, apparemment la vieille fille bigote, mais qui a un bon fond et qui est surtout très timide. Et puis le sale gosse, le jeune Henri Girard, qui a 23, 24 ans, je crois, à l'époque.
23 ans, voilà.
23 ans, qui est capricieux, dépensier, colérique, comme pas mal de jeunes gens, mais peut-être un peu plus. Il a été très gâté parce que sa mère, Henri Girard, est morte, la femme donc de Georges Girard, est morte quand il était petit, Valentine, elle s'appelait. Et donc son père l'a un peu couvé, son père un peu bourru, un peu maladroit, l'a un peu trop gâté. Et donc voilà, ça fait un enfant un peu turbulent.
Il a tout ce qu'il veut, il faut bien le dire. Il est étudiant et il vit...
Il a tout ce qu'il veut, son père lui donne l'argent qu'il veut, quand il réclame, il a. C'est un peu particulier. Parce que c'est en 1941, donc à Paris c'est l'occupation, donc il n'a pas vraiment tout ce qu'il veut, c'est quand même une vie qui a été pas mal chamboulée, métamorphosée depuis l'arrivée des Allemands, mais disons que son père n'est pas non plus richissime, hein. C'est pas, son père travaille au ministère des Affaires étrangères.
À Vichy.
Alors il a été obligé de suivre Pétain à Vichy, il est à l'hôtel du Parc, mais son père est plutôt un rat de bibliothèque qu'un industriel par exemple. Donc il a ce qu'il veut, mais ça reste, la famille possède des terres et des immeubles, mais financièrement, je veux dire, au niveau vraiment pécuniaire, ça reste raisonnable.
Alors, il y a cette scène de crime qui est épouvantable. On a l'impression, Philippe Jaénada, qu'on n'a laissé aucune chance aux victimes. C'est un massacre.
Alors là, oui, c'est pas qu'une impression. C'est-à-dire que moi, en plus, comme je suis allé enquêter aux archives de Périgueux, j'ai vu les photos. Massacre, le mot est presque trop faible. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment un carnage. C'est-à-dire que ces trois personnes ont été littéralement ravagées à coups de serpe. Je me suis procuré une serpe, moi, de l'époque. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire, pour moi, une serpe, je voyais le truc d'Astérix, là, l'espèce de faucille d'Astérix pour couper des herbes. En fait, non, c'est un gros machin. Ça pèse très lourd. C'est pour couper des pieds de vigne ou des petits sapins, des petits arbres. C'est énorme. Quand j'ai tenu ça dans ma main et je me suis dit, quelqu'un l'a levé 30 fois pour taper avec ça sur la tête de ces trois pauvres personnes, il faut vraiment être un fou furieux pour faire ça.
Et tout de suite, tous les regards se portent, alors c'est de bon ton aussi, hein, dans un village, etc., aussi petit, mais tous les regards se portent sur le fils de la famille, d'abord parce qu'il est le survivant, et puis ensuite il a une réputation un peu fantasque.
Oui, il a une réputation, il a une réputation fondée de Parisien, de jeune riche Parisien, ce qui déjà le place un peu en porte-à-faux vis-à-vis des habitants, et puis c'est vrai qu'il est un peu fou, il chante très fort à la fenêtre, il fait des caprices, dans le village, on l'appelle le fou d'ailleurs, les gens du village qui ne le voient que quelques semaines par an puisque c'est un lieu de vacances pour la famille. Et puis surtout, comme vous dites, cette histoire, on dirait qu'une fan d'Agatha Christie pas très douée a essayé d'inventer un scénario. C'est-à-dire que c'est vraiment ce château lugubre, un jour d'automne, de pluie, sous l'occupation. Tout est fermé, c'est un grand château qui est vraiment pas très beau et angoissant. Toutes les portes et fenêtres sont fermées, il y a quatre personnes à l'intérieur. Le matin, il y en a trois qui sont massacrées et une qui ouvre la porte et qui dit au secours, c'est forcément lui.
Le fils de la famille, réputé imprévisible, est donc montré du doigt. Il avait emprunté récemment la fameuse serpe. Les policiers, le juge et le procureur vont donc s'intéresser de très près à sa personne. Le procureur de Limoges prend le dossier du château d'Escoire, on ne peut plus au sérieux. Dans cette affaire sordide, un haut fonctionnaire de l'administration du maréchal Pétain a été assassiné. Il faut savoir si sa personne n'était pas expressément visée. Les policiers de la brigade mobile, et notamment les commissaires messagers Briot, sont chargés des investigations. Les témoins sont entendus. Jeannette Valade, première sur les lieux, dit que tout était fermé quand elle est arrivée. Seule la porte de la cuisine au rez-de-chaussée était ouverte, porte qui pourtant ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Louise, la bonne, aurait-elle ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait ou bien l'assassin fait-il partie de la maison ? Jeannette dit avoir entendu un bruit après avoir pénétré ce matin-là dans le salon. Selon elle, il ne pouvait s'agir que de Henri Girard qui n'avait pas encore appelé au secours. Un autre témoignage intrigue la police. C'est celui de René Tolu, le fils des gardiens. Le soir des crimes, le jeune homme dit être passé devant le château peu avant 20h et avoir aperçu la bonne. Tout semblait normal. Il est allé à Escoire pour voir des amis, une histoire de permis de chasse. Mais en revenant vers 21h30, il a été surpris de voir le château plongé dans l'obscurité. Et si l'assassin avait provoqué une panne électrique pour pouvoir trucider les occupants de la bâtisse ? Coïncidence. Le tableau d'alimentation est justement dans la chambre où dormait le jeune Henri Girard. Est-ce lui qui a actionné le commutateur ? Les enquêteurs notent que le tableau est dépourvu de poussière. Henri précise qu'il l'a nettoyé après avoir changé des fusibles quelque temps auparavant. Il affirme, lui, n'avoir constaté aucune coupure d'électricité. Pour la police, cependant, les victimes ont été surprises à la faveur de l'obscurité. Madame Amélie a ainsi été retrouvée en chemise de jour. Elle était en train de se déshabiller. Henri répète qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné, sauf que rien n'a été volé. Les bijoux de la tante Amélie n'ont pas été emportés. Une somme de 8000 francs versée la veille par le régisseur du domaine a été laissée intacte. Le gardien, le père Tolu, a même retrouvé le portefeuille de Monsieur Girard dans le chemin qui mène au château.
Vous écoutez l'heure du crime sur RCI. Jean-Alphonse Richard. 23h minuit, l'heure du crime. RTL, Jean-Alphonse Richard.
Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Là où ont dormi Georges Girard, le papa, la tantine et la bonne, ben y a trois cadavres. Du sang partout, désordre absolu. Et puis, il y a une énorme, une grosse serpe. C'est l'arme du crime.
Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir dans l'heure du crime.
Il reste à ce jour celui qui a inspiré l'un des scénarios les plus haletants du cinéma. C'est lui, Georges Arnaud, qui avait écrit l'histoire du salaire de la peur, dans lequel se font face Yves Montand et Charles Vanel au volant d'un camion chargé de nitroglycérine, lâcheté, mensonge et fièvre de l'argent. Quelques années auparavant, le même Georges Arnaud avait-il imaginé le scénario bien réel, celui-là, d'un triple crime dans lequel il occuperait le premier rôle, le massacre du château d'Escoire. C'était à l'automne 1941 et celui qui s'appelait encore Henri Girard, 23 ans, s'était retrouvé accusé d'avoir tué en une nuit son père, sa tante et la bonne de la famille. L'argent déjà, l'argent d'un héritage aurait été le mobile de ses exécutions. C'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, histoire qui va longtemps rester taboue et sur laquelle l'intéressé devenu célèbre sous le nom de Georges Arnaud se gardera bien de revenir. Est-ce lui qui a tenu lors de cette nuit d'effroi la serpe couverte de sang? Notre invité Philippe Jaénada, qui a longtemps enquêté sur cette affaire, va nous aider à éclaircir ce mystère.
L'heure du crime.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire du château d'Escoire, un triple meurtre à l'automne 1941, dans lequel va se retrouver impliqué le fils de la famille, qui sera un jour un célèbre romancier. Samedi 25 octobre 1941, aux alentours de 8h du matin, Jeannette Valade, petite paysanne de 16 ans, emprunte le sentier qui mène à une austère et monumentale bâtisse adossée à un parc. Dans le bourg d'Escoire, à 12 km de Périgueux, on appelle tout simplement cette propriété le château, domaine qui appartient à une riche famille parisienne, les Girard. Jeannette emmène deux poulets vivants à Amélie Girard, du ravitaillement en pleine guerre. Cette vieille fille, la quarantaine, cette vieille fille doit reprendre le jour même le train pour Paris. Madame Amélie séjourne depuis quelques jours au château avec son frère, Georges Girard, haut fonctionnaire du gouvernement de Vichy, et le fils de celui-ci, Henri, 23 ans. Les fenêtres et les portes de la grande maison sont closes. Seule la cuisine est ouverte. La petite paysanne entre, mais ne voit pas âme qui vive. La cuisinière n'est pas allumée, la bonne est absente. Elle appelle, mais personne ne répond. Elle traverse la salle à manger, plongée dans une semi-pénombre, puis se dirige vers le petit salon qui sert de chambre à Madame Amélie. Le désordre est ici indescriptible. Les tiroirs d'une commode ont été fouillés. Une armoire est ouverte, les draps et les couvertures roulées en boule, un matelas déplacé. Jeannette aperçoit deux jambes sur le sol, à droite du lit. Elle pense tout d'abord à une statue jetée par terre. Mais c'est un corps gisant à plat ventre. Elle ne comprend pas, pressant le pire, repart chez elle pour donner l'alerte. Jeannette, aussitôt enfuie, un cri ne tarde pas à déchirer la quiétude du parc du château d'Escoire. Les Tolus, Romain et Victoria Tolu, le couple de gardiens qui habitent là, une petite maison, entendent cet appel au secours. C'est Henri Girard, le fils de la famille, qui crie « ils sont tous morts » répète-t-il. Les gardiens, puis bientôt le maire d'Escoire, les premiers gendarmes et quelques curieux, découvrent un massacre. Près de la cuisine, dans une chambre, il y a le corps de Georges Girard, en partie défiguré par une avalanche de coups donnés avec un objet tranchant. Il s'est défendu. Un autre cadavre se trouve non loin de lui, celui de la bonne Louise Soudex, qui loge au château, tuée d'un seul coup à la tête. Avec le même objet, elle est morte debout, alors qu'elle voulait sans doute venir au secours du propriétaire. Amélie Girard, Madame Amélie, est la victime qui a reçu le plus de coups. Son meurtrier s'est acharné, 18 perforations et estafilades dans le dos. 6 coups ont été donnés alors qu'elle était déjà morte. Elle aussi s'est défendue. Ses doigts, qui portent encore leur bague, ont été tranchés. L'arme du crime est vite retrouvée dans la cuisine. C'est une serpe maculée de sang. Le gardien la reconnaît. Henri, le fils de la famille, lui avait emprunté la veille. Henri Girard répète à qui veut l'entendre qu'un cambrioleur a tué tout le monde. Il en veut pour preuve cette maison sans dessus-dessous. La tante Amélie était arrivée depuis une dizaine de jours, Henri l'avait rejointe. Il avait ensuite insisté auprès de son père, haut fonctionnaire, historien, archiviste au ministère des Affaires étrangères de Vichy, pour qu'il vienne au château. Celui-ci avait finalement accepté. La veille du drame, la famille, servie par Louise, a dîné à 19h30, une soupe de haricots. Henri dit que son père s'est couché vers 22h, sa tante une heure plus tard. Lui a retrouvé sa chambre dans l'aile opposée du château, l'aile nord-est. Il a lu jusqu'à minuit un roman de Paul Bourget intitulé « Le sens de la mort ». Il n'a rien entendu. Henri ne semble pas particulièrement sonné par la tragédie. Juste après la découverte des corps, on l'a surpris en train de jouer du piano après avoir bu des rasades de gnôle. Quand le maire s'est étonné de cette attitude, il a répondu « C'est tristesse de Chopin ». Les regards se portent d'emblée sur ce jeune homme excentrique, un bon à rien pour beaucoup, dont on dit qu'il détestait sa tante. Et voilà donc pour la scène de ce triple crime dans ce château un brin austère, il faut bien le dire, un brin lugubre, dans cette Dordogne qui vit à l'heure de la guerre. On est déjà dans l'amorce d'un scénario prometteur aux abords de ce tout petit village d'Escouart. Et on va voir évidemment dans les chapitres suivants comment cette enquête va progresser. Bonjour Philippe Jaénada.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, auteur du livre « La Serpe » aux éditions Julliard, prix Femina 2017. C'est un gros bouquin et vous avez longtemps enquêté sur cette affaire. Il y a tout dans ce bouquin, on va en parler évidemment avec vous. Première question, Philippe Jaénada. Quelques mots sur cette famille Girard. Ce sont dans cette Dordogne des Parisiens, c'est ça, une riche famille parisienne.
Oui, a priori, c'est le schéma classique des châtelains de Paris qui viennent déranger et surplomber les braves habitants qui sont leurs métayers d'ailleurs. Les habitants autour du château sont les métayers de ces personnes. C'est une vieille famille bourgeoise, de la grande bourgeoisie parisienne, assez riche, relativement riche, qui possède des immeubles, des terres, des actions en bourse, etc. En fait, il s'avère que c'est une famille un peu plus étrange et bizarre que qu'on pourrait s'y attendre, avec un père, Georges Girard, qui n'est pas du tout l'image du grand bourgeois parisien, qui est plutôt une sorte de d'archiviste, bibliothécaire, un peu poète, un peu rebelle. Une tante, donc sa sœur Amélie, Madame Amélie, comme vous disiez, qui est la vieille fille, apparemment la vieille fille bigote, mais qui a un bon fond et qui est surtout très timide. Et puis le sale gosse, le jeune Henri Girard, qui a 23, 24 ans, je crois, à l'époque.
23 ans, voilà.
23 ans, qui est capricieux, dépensier, colérique, comme pas mal de jeunes gens, mais peut-être un peu plus. Il a été très gâté parce que sa mère, Henri Girard, est morte, la femme donc de Georges Girard, est morte quand il était petit, Valentine, elle s'appelait. Et donc son père l'a un peu couvé, son père un peu bourru, un peu maladroit, l'a un peu trop gâté. Et donc voilà, ça fait un enfant un peu turbulent.
Il a tout ce qu'il veut, il faut bien le dire. Il est étudiant et il vit...
Oui, il a tout ce qu'il veut, son père lui donne l'argent qu'il veut, quand il réclame, il a. C'est un peu particulier parce que c'est en 1941, donc à Paris c'est l'occupation, donc il a pas vraiment tout ce qu'il veut, c'est quand même une vie qui a été pas mal chamboulée, métamorphosée depuis l'arrivée des Allemands. Mais disons que son père n'est pas non plus richissime, hein, c'est pas, son père travaille au ministère des Affaires étrangères
à Vichy.
Alors il a été obligé de suivre Pétain à Vichy, il est à l'hôtel du Parc. Mais son père est plutôt un rat de bibliothèque qu'un industriel par exemple. Donc il a ce qu'il veut, mais ça reste, la famille possède des terres et des immeubles, mais financièrement, je veux dire, au niveau vraiment pécuniaire, ça reste raisonnable.
Alors, il y a cette scène de crime qui est épouvantable. On a l'impression, Philippe Jaénada, qu'on n'a laissé aucune chance aux victimes. C'est un massacre.
Alors là, oui, c'est pas qu'une impression. C'est-à-dire que moi, en plus, comme je suis allé enquêter aux archives de Périgueux, j'ai vu les photos. Massacre, le mot est presque trop faible. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment un carnage. C'est-à-dire que ces trois personnes ont été littéralement ravagées à coups de serpe. Je me suis procuré une serpe, moi, de l'époque. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire, pour moi, une serpe, je voyais le truc d'Astérix, là, l'espèce de fossile d'Astérix pour couper des herbes. En fait, non, c'est un gros machin. Ça pèse très lourd. C'est pour couper des pieds de vigne ou des petits sapins, des petits arbres. C'est énorme. Quand j'ai tenu ça dans ma main et je me suis dit, quelqu'un l'a levé 30 fois pour taper avec ça sur la tête de ces trois pauvres personnes, il faut vraiment être un fou furieux pour faire ça.
Et tout de suite, tous les regards se portent, alors c'est de bon ton aussi, hein, dans un village, etc., aussi petit, mais tous les regards se portent sur le fils de la famille, d'abord parce qu'il est le survivant, et puis ensuite, il a une réputation un peu fantasque.
Oui, il a une réputation, il a une réputation fondée de Parisien, de jeune riche Parisien, ce qui déjà le place un peu en porte-à-faux vis-à-vis des habitants, et puis c'est vrai qu'il est un peu fou, il chante très fort à la fenêtre, il fait des caprices, dans le village, on l'appelle le fou d'ailleurs, les gens du village, qui ne le voient que quelques semaines par an, puisque c'est un lieu de vacances pour la famille. Et puis surtout, comme vous dites, cette histoire, on dirait qu'une fan d'Agatha Christie, pas très douée, a essayé d'inventer un scénario. C'est-à-dire que c'est vraiment ce château lugubre, un jour d'automne, de pluie, sous l'occupation, tout est fermé, c'est un grand château qui est vraiment pas très beau et angoissant. Toutes les portes et fenêtres sont fermées, il y a quatre personnes à l'intérieur. Le matin, il y en a trois qui sont massacrées et une qui ouvre la porte et qui dit au secours, c'est forcément lui.
Le fils de la famille réputé imprévisible est donc montré du doigt. Il avait emprunté récemment la fameuse serpe. Les policiers, le juge et le procureur vont donc s'intéresser de très près à sa personne. Le procureur de Limoges prend le dossier du château d'Escoir. On ne peut plus au sérieux dans cette affaire sordide. Un haut fonctionnaire de l'administration du maréchal Pétain a été assassiné. Il faut savoir si sa personne n'était pas expressément visée. Les policiers de la brigade mobile, et notamment les commissaires messagers Briot, sont chargés des investigations. Les témoins sont entendus. Jeannette Valade, première sur les lieux, dit que tout était fermé quand elle est arrivée. Seule la porte de la cuisine au rez-de-chaussée était ouverte, porte qui pourtant ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Louise, la bonne, aurait-elle ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait ou bien l'assassin fait-il partie de la maison ? Jeannette dit avoir entendu un bruit après avoir pénétré ce matin-là dans le salon. Selon elle, il ne pouvait s'agir que de Henri Girard qui n'avait pas encore appelé au secours. Un autre témoignage intrigue la police. C'est celui de René Tolu, le fils des gardiens. Le soir des crimes, le jeune homme dit être passé devant le château peu avant 20h et avoir aperçu la bonne. Tout semblait normal. Il est allé à Escoir pour voir des amis, une histoire de permis de chasse. Mais en revenant vers 21h30, il a été surpris de voir le château plongé dans l'obscurité. Et si l'assassin avait provoqué une panne électrique pour pouvoir trucider les occupants de la bâtisse ? Coïncidence. Le tableau d'alimentation est justement dans la chambre où dormait le jeune Henri Girard. Est-ce lui qui a actionné le commutateur ? Les enquêteurs notent que le tableau est dépourvu de poussière. Henri précise qu'il l'a nettoyé après avoir changé des fusibles quelque temps auparavant. Il affirme, lui, n'avoir constaté aucune coupure d'électricité. Pour la police, cependant, les victimes ont été surprises à la faveur de l'obscurité. Madame Amélie a ainsi été retrouvée en chemise de jour. Elle était en train de se déshabiller. Henri répète qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné, sauf que rien n'a été volé. Les bijoux de la tante Amélie n'ont pas été emportés. Une somme de 8000 francs versée la veille par le régisseur du domaine a été laissée intacte. Le gardien, le père Tolu, a même retrouvé le portefeuille de Monsieur Girard dans le chemin qui mène au château.
Vous écoutez l'heure du crime sur RCI. Jean-Alphonse Richard.
Money and no stress, oh yes. Dimanche à la Impress, où qu'on soleil met en vie gravité. Où tout c'est Lucas Lowine, oh girl. Screenshot, remember this. We stop the time, nous est quand nous en vie. Oh. La basse épouse ta mélanine.
quand tu break, break, t'as un côté basse galerie. Aucun de nous ne prendra la fuite s'il y a un zouk à la suite. Mais Kadouli, franchement, ça pas qu'arriver, moi tout long. Wow, 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 so why? Tell me why? Tell me, baby, why? Nous aussi connectés. Dans l'intimité tu backshot et tu fais la dance all queen. Personne pas connaître Jean ou qu'a dance so clean. DJ voyez ça roule pas des guines. Pour arrêter tous les dés, même les dance all fin. Pas ni pièce tout ça en bloc on supprime. Zéro bad vibe on la grâce sublime. I'm a king, oh yes queen. C'est your joint command, respect ton dagarin. So why, so why, so why.
RCI, 23h minuit, l'heure du crime. RTL, Jean-Alphonse Richard.
Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Christophe Dalmasso, un riche homme d'affaires niçois porté disparu et qui a été en fait exécuté. Sa propre fille, Lucie, est accusée d'avoir planifié l'assassinat. Elle raconte que Borba, comme elle l'appelle, lui faisait croire que son père disparu était au Brésil. Elle le croit coupable, mais est certaine qu'il n'a pas agi seul. Ce procès-là ne va pas très loin. La présidente de la cour d'assises est confrontée à des lacunes dans le dossier d'instruction, des actes et des vérifications qui n'auraient pas été accomplis. Le procès doit être ajourné. Didier Chalumeau, je reviens vers vous, ancien journaliste de Nice Matin et qui avait suivi l'affaire. Quel climat règne à ce procès, d'ailleurs qui va être, on l'a dit, abrégé, mais qui déjà ouvre le bal de cette histoire?
C'est un peu surréaliste parce que Lucie a bénéficié d'un non-lieu et donc elle n'est pas encore partie civile. Elle le sera dans le procès suivant. Mais bon, c'est très curieux parce que Borba est tout seul et elle est entendue comme témoin où elle lâche absolument rien. Mmh. Même quand Borba lui dit l'accuse publiquement depuis le box, elle ne lâche rien. Elle reste droit dans ses bottes, elle manifeste aucune émotion. Je ne sais pas si elle récite une leçon, mais en tout cas, elle n'a strictement rien lâché.
Maître Philippe Soucy, vous êtes également en ligne depuis Nice dans l'heure du crime ce soir. Votre client est donc l'accusé à cette époque et à ce moment-là du procès. Vous confirmez ce climat de ping-pong finalement entre ces deux personnes?
Ah, tout à fait. Comme vient de le dire Didier Chalumeau, un procès qui s'ouvre dans une ambiance surréaliste. Je voudrais juste vous rappeler, c'est très important pour l'ouverture du procès.
Allez-y.
Au départ, le juge d'instruction qui a instruit cette affaire renvoie la fille adoptive pour complicité d'assassinat. Mmh. C'est la cour d'appel qui lui octroie un non-lieu. Donc là, on a déjà deux décisions complètement contraires. Et à l'ouverture du procès, Lucie Dalmasso, donc, qui est bénéficiaire d'un non-lieu, se constitue partie civile. Et là, il se passe un événement rarissime devant une cour d'assises, c'est que la cour d'assises lui refuse sa constitution de partie civile. Pour une raison très simple, si elle est partie civile, elle peut s'asseoir à côté de Madame Dalmasso sur le banc des parties civiles et suivre l'intégralité du procès. Donc quand elle est appelée à témoigner, elle a déjà tous les éléments qui ont été débattus. Donc la cour lui refuse sa constituante partie civile. Elle est obligée de patienter pendant 4 jours dans la salle des témoins. D'être entendu. Donc on a déjà un schéma qui est un petit peu compliqué, et surtout, au titre de cette ambiance surréaliste, c'est que le dossier a tellement de lacunes.
Oui, c'est ça. C'est un dossier gruyère, hein, c'est ça.
Mais complètement, le président de la cour d'assises et son pouvoir propre est obligé d'ordonner pendant les débats, parce que, comme vous le disiez, le procès était interrompu, mais il avait déjà duré une semaine. Le président est obligé d'ordonner 2 suppléments d'informations. Un premier supplément d'informations concernant les fameux SMS, peut-être que vous souhaiterez en parler, c'était l'élément majeur de ce procès.
On va y venir tout de suite.
Et le président de la cour d'assises demande aux enquêteurs de retourner sur la propriété du grand-père de la fille adoptive pour procéder à des prélèvements sur cette propriété, parce que finalement il s'avéra qu'on va retrouver sur cette propriété des ossements d'animaux qui sont les mêmes que ceux qu'on retrouvera sur la plage du Soleil à gauche Jean Pré du corps de Christophe Dalmasso.
Alors ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une concordance finalement entre le lieu où il aurait pu être enterré puis le corps qui a été retrouvé, c'est ça, hein?
C'est-à-dire que les enquêteurs étaient convaincus que dans un premier temps, le corps du malheureux Christophe Dalmasso avait été peut-être, sans doute, en tout cas selon eux, enterré sur la propriété du grand-père de la fille adoptive. Mmh. Et qu'ensuite il avait été déterré, puis jeté dans le vallon de l'Aube, et la propriété est entre le vallon de l'Aube et la plage de Golgian. Mmh. Et comme vous le disiez, du 8 au 23 août à peu près 2004, on retrouve
des
ossements humains suite à des intempéries qui ont eu lieu sur la Côte d'Azur début août 2014. Donc là-bas, les enquêteurs, pendant le procès, on suspend le procès pendant quelques heures, vont sur place, ils récupèrent des ossements d'animaux, et avec le procédé du Bluestar, surtout sur certaines parties de cette propriété, on retrouve du sang. C'est déjà un motif, si vous voulez, de supplément d'information, c'est ce qui va arriver.
Dans tous les cas, on a le sentiment, effectivement, ce que vous dites, Maître Soucy, et ça sera reconnu d'ailleurs par toutes les parties, que le procès est alors dans le désordre, hein. On peut pas avancer beaucoup plus. Vous avez évoqué, il y a un instant, les fameux SMS, qui ont été transmis entre Lucie, je crois, et puis le danseur brésilien. Dites-nous un petit peu ce que ça donne à cette audience.
C'est un élément capital parce que Lucie, tout au long de l'instruction, pendant des années, pour sa défense, dit que Borba, après la disparition de son père, lui aurait envoyé des SMS censés donc la persuader de la présence de son père au Brésil. Et donc elle dit, voyez bien, moi, Borba m'envoie des SMS, moi j'ignore que mon père est au Brésil, il veut me faire croire que mon père a volontairement disparu et est parti au Brésil. Et là, il y a eu un coup de théâtre à l'audience. Voilà un garçon qui, pendant des années, dit « Je ne suis pas l'auteur de ces SMS ». Et là, coup de théâtre, l'interprète, qui est avec Borbanon, le box des accusés, c'est moi qui lui pose la question, parce que on est là depuis des heures avec quelqu'un qui vous dit « Je ne suis pas l'auteur ». Je lui pose la question très simple, un peu une question sans filet. Est-il possible qu'il ne soit pas l'auteur de ces SMS ? Et là, l'interprète dit « J'ai une difficulté. J'ai besoin de relire ces SMS et le rapport qui avait été fait à l'instruction. » Parce que mon problème, c'est que je ne suis pas du tout certain qu'il puisse en être l'auteur. Mmh. Supplément d'information, expertise de la part de cet interprète qui vient nous dire quelques heures après que vraisemblablement, Borba n'est pas l'auteur de ces SMS. Parce que ces SMS ont été écrits avec des fautes qu'un Brésilien ne peut pas commettre et que vraisemblablement, ils ont été écrits par un francophone qui s'essaye à la langue portugaise mais qui est très maladroit. Et ça, c'est un coup de théâtre. Parce que si vous voulez, ce que dit Borba depuis des années, on a là la démonstration en pleine audience que c'est sans doute la vérité. Et que la thèse de Lucie Dalmasso, sur ce point-là, ne tient pas la route et qu'elle ne dit pas la vérité. Donc on se retrouve dans une situation dans ce procès totalement invraisemblable qui va conduire donc la cour à renvoyer le procès et à libérer Edno Borba da Silva.
Malgré les attaques et les doutes, Lucie Dalmasso est définitivement mise hors de cause dans le meurtre de son père. Elle bénéficie même d'un deuxième non-lieu. Seul le complément d'enquête et la tenue d'un deuxième procès pourront peut-être éclaircir le mystère de cette exécution. Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Christophe Dalmasso. Un premier procès pour juger son meurtrier présumé, ajourné, faute d'enquête suffisante. Quatre nouvelles années d'investigation. Cette fois, l'heure du verdict va sonner. Après 10 ans d'enquête, de rebondissements et de tenaces soupçons, la justice va enfin se prononcer en mars 2013 sur le meurtre de Christophe Dalmasso. Même si cette fois, le box des accusés est déserté. Le Brésilien Edno Borba da Silva, considéré comme le principal responsable de l'enlèvement suivi de l'exécution de l'homme d'affaires, le Brésilien est absent. Libéré et placé sous contrôle judiciaire avant cette nouvelle comparution aux assises, il a pris le large. Il avait averti son avocat, Philippe Soucy, qu'il quittait la France. On ne l'a pas retrouvé depuis. Il sera donc jugé en son absence. 3 personnes comparaissent également, 2 demi-celles, des délinquants de bas étage qui auraient été rémunérés pour brûler la voiture de la victime, et puis un autre homme qui aurait aidé à transporter le corps. Cet accusé, Vicem Krayem, un ami du Brésilien en fuite, indique que celui-ci lui avait demandé de discrètement se débarrasser de sacs de gravats. Il avait alors noté quelque chose de mou à l'intérieur. Le Brésilien lui aurait ensuite demandé d'enterrer le corps. La fille de Christophe Dalmasso, Lucie, un temps accusée d'assassinat, revient témoigner. Elle décrit Edno Borba da Silva comme un mythomane violent et jaloux, très dangereux, qui lui a fait croire pendant des mois que son père avait volontairement disparu. Je l'ai cru, j'étais complètement idiote, dit-elle. Audition de 7 heures, pendant laquelle elle ne cesse de répéter qu'elle a été manipulée. Le jeudi 21 mars 2013, les jurés de la cour d'assises tranchent. Edno Borba da Silva est condamné en son absence à la perpétuité. 7 ans pour Vicem Krayem, 2 et 3 ans pour les brûleurs de voitures. Lucie Dalmasso quittera le tribunal en sanglots, heureuse de ses condamnations, mais indiquant avoir été détruite par tous ces mensonges. Maître Philippe Soucy, je reviens vers vous. Vous êtes toujours au téléphone ce soir de l'heure du crime. Alors, votre client est en fuite. Il a pris le large, comme j'ai dit. Et il a pris soin tout de même de vous prévenir de cette absence, de ce départ.
Oui, c'est une situation très particulière. Quand la cour d'assises, en 2009, renvoie le procès, je fais une demande de mise en liberté, évidemment, immédiatement, il était détenu depuis 4 ans et demi, la cour le libère, ce qui est tout à fait l'application du droit, et parallèlement, c'est pour ça que cette procédure est complètement dingue et surréaliste, le parquet général d'Aix-en-Provence, ce qui est rarissime, va requérir la réouverture sur charge nouvelle de l'information suivie contre Lucie Dalmasso. Donc on reprend les investigations la concernant de zéro, et finalement elle bénéficiera d'un non-lieu. Monsieur Borba est dehors, en liberté sous contrôle judiciaire, et c'est vrai qu'un jour je reçois un coup de téléphone de sa part, dont d'ailleurs j'informerai le juge d'instruction, bien sûr, et la partie civile, et même la presse, puisqu'il me l'avait demandé, dans lequel il me dit que sa situation est devenue insupportable, puisqu'il est en liberté, mais sans papier, il ne peut pas travailler, que sa situation est insupportable sur le plan psychologique, sur le plan matériel, et qu'il quitte le territoire national. Et c'est la dernière fois que je l'aurais eu au téléphone. C'est vrai qu'il m'a dit qu'il viendrait au procès. Il n'est pas venu.
Et, d'ailleurs, on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qu'il devient. Il est très certainement chez lui au Brésil, maître. Hein, c'est ça, en deux mots.
Peut-être. C'est absolument rien.
Dans tous les cas, il est dans la nature et il ne s'est pas présenté à ce procès. Bonsoir, René Dalmasso. Merci beaucoup de nous avoir rejoint quelques minutes dans l'heure du crime. Vous êtes la mère de Christophe Dalmasso. Alors, on a raconté cette affaire, on a raconté cette difficulté à obtenir la vérité dans ce dossier. Pourquoi cette conviction, pour vous, de votre côté, que Lucie est coupable? 2 non-lieux à son bénéfice. Votre fils, vous en avez parlé, il se sentait menacé?
Un jour, il me dit, tu sais maman, si on te demande une rançon, tu paies pas. Alors je le regarde, stupéfaite. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a dit, maman. Alors je lui dis, tu sais bien, tu me connais, Christophe. Je donnerai tout ce que j'ai. Mais j'ai pas approfondi, j'ai pas cherché à comprendre. C'est pour ça que je m'en veux terriblement. Et lui, il m'a répondu textuellement, ce n'est pas la peine, maman. Ils me tueront quand même parce que je les reconnaîtrai. Et voilà. Et il me disait, la mais il n'en disait pas plus, il était assez secret, vous voyez. Mmh. Simplement, il me disait, la froideur de Lucie me fait peur.
Alors, la froideur de Lucie me fait peur, ça c'est votre sentiment, vous le donnez ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle hein, que Lucie n'est pas présentée comme coupable hein, et qu'elle a bénéficié de double non-lieu dans cette affaire. Je suppose, Madame Dalmasso, que pour vous, cette affaire n'est pas terminée.
Ça fait 17 ans que je me suis investie dans l'enquête criminelle de mon fils pour qu'il existe encore. Mais Christophe a été assassiné, mais la vérité n'est pas sortie. On a diabolisé Christophe pour le rendre responsable de ce qui lui est arrivé. Honteux, honteux. Le dossier a été plombé, on parle de découpage de corps qui est formellement contredit par deux médecins légistes. On a plombé le dossier, mais moi je continuerai mon combat jusqu'à la fin de mes jours, mais je veux la vérité. Je veux pas que ce crime reste impuni. On n'a pas le droit d'enlever la vie d'un être humain. On n'a pas le droit. Jusqu'à la fin de ma vie, je me battrai. Et là, je repars au combat. J'ai une nouvelle avocate.
Vous avez une nouvelle avocate. Maître Philippe Soucy,
oui.
Vous êtes en ligne dans l'heure du crime. J'entends bien ce que dit Madame Dalmasso. Effectivement, et son combat est légitime. Elle estime que la vérité n'a pas été faite dans cette histoire. C'est aussi votre sentiment, maître ?
Ah, c'est tout à fait mon sentiment. C'est tout à fait mon sentiment. Moi, je respecte tout à fait ce que dit Madame Dalmasso. D'ailleurs, si l'enquête au départ, si Madame Dalmasso ne fait pas ce qu'elle fait au début de l'enquête, le dossier ne sort jamais. Hein. C'était l'enquêteur numéro un dans cette procédure au tout début. Mmh. Donc,
oui, parce qu'elle a trouvé hein, il faut le rappeler, elle a trouvé l'échec, etc. C'est elle
qui a fait l'échec. Elle était même allée à l'hôpital Saint-Roch à Nice pour faire constater un certificat de blessure concernant Monsieur Borba da Silva. Enfin, donc je respecte tout à fait son combat. Elle est convaincue. Moi, je n'ai pas de conviction là-dessus, j'ai pas le droit d'en avoir. Elle est convaincue comme vous l'avez rappelé, hein, la fille adoptive a eu deux non-lieux, donc on est obligé d'en prendre acte. Elle est convaincue que la vérité n'est pas sortie de ce dossier. Elle est peut-être convaincue que Monsieur Borba da Silva a quelque chose à voir dans cette affaire. Mais c'est tout le sujet. Quelque chose, ça veut dire quoi? Je rappelle qu'au départ, on est sur un assassinat, ensuite on est sur un meurtre. Voyez-vous, pendant les débats, l'affaire ne tenait tellement pas que pendant les 5 premiers jours de débat, quand on était dans le premier procès, la présidente avait annoncé qu'elle poserait la question subsidiaire de complicité de meurtre. C'est-à-dire qu'on voyait bien que le dossier échappait et que Borba ne pouvait pas être condamné.
C'est ça. Et d'ailleurs, à ce deuxième procès, il faut quand même le signaler, la présidente va entendre pendant 7 heures Lucie Dalmasso et va vraiment essayer de lui poser un maximum de questions. C'est ce qui est rare pour un témoin aussi.
Tout à fait.
Donc on est toujours dans ce climat de suspicion, selon vous, maître, dans cette affaire? C'est quelque chose qui reste? C'est ce qui caractérise cette affaire?
Ce qui caractérise cette affaire, c'est que il y a un principe intangible hein, qui n'est pas écrit, mais quand une affaire commence mal, elle finit mal. Cette affaire a très mal débuté. On est là aujourd'hui, 17 ans après, comme vient de le rappeler Mme Dalmasso, on n'a pas la vérité.
On n'a pas la vérité. Didier Chalumeau, juste un petit mot. On peut estimer que cette affaire peut repartir un jour ou l'autre?
Bah écoutez, moi ça me paraît difficile, dans le sens où il y a l'autorité de la chose jugée, et que à moins d'éléments nouveaux pour une réouverture d'informations, ça me paraît très compliqué.
Merci beaucoup Didier Chalumeau, maître Philippe Soucy, madame Renée Dalmasso d'avoir témoigné dans cette heure du crime, l'affaire Christophe Dalmasso qui peut-être, donc on ne sait pas, va rebondir. Nous suivrons évidemment ce dossier de près. Merci à l'équipe de l'émission. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute et votre grande fidélité.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
RCI, c'est la vie. RCI, c'est la vie.
Convoqué dans ta vie, je viens effacer les idées sombres de tes nuits. N'aie pas peur, laisse-moi juste d'entrer. Allumer cette bougie pour t'éclairer.
When's the time to shine? Come on, each and everyone. Just free up on the mind. Stop with all the war and crime. Blessings each and every time. Seeking you and find your true path in life. Got to read the signs. Keep the smile within no matter what the circumstances. Always shine your light. Be strong, brave and optimistic. Look up to the sky and give thanks for life. Keep your goals in sight. Everything is right.
Reste debout tant que tu es vivant, va devant. Oh, et demain, tu te diras que tout va bien.
Smile, smile.
À toi la vie.
Smile, smile.
Alright then. No matter where you're going, never lose your smile.
Smile, 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 smile.
And never let the wicked pagans take away your shine.
Things are meant to be.